Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Auvigne, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Clément Daté. Premier jour de notre nouvelle série consacrée à une technologie aussi convoitée que controversée, la 5G. Les enchères s'ouvrent ce mardi pour les opérateurs téléphoniques français. Ils pourront acquérir des fréquences et proposer les premiers services d'ici à la fin de l'année. Un coup d'envoi qui relance le débat entre partisans de la sobriété numérique et promoteurs du progrès technologique, entre amish et innovateurs, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron. La 5G est-elle la révolution tant attendue par les entreprises? Ne risque-t-elle pas de renforcer la fracture numérique dans l'Hexagone? Voilà les questions que nous poserons cette semaine. Mais d'abord, peut-on déployer la 5G sans compromettre la transition écologique? Nous ouvrons le débat sur la 5G en compagnie de Céline Lescope, responsable du programme informatique durable chez AXA et membre du groupe de travail sur la sobriété numérique du think tank The Shift Project. Avec nous également depuis Grenoble, Guillaume Mandy, l'enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes, spécialiste de l'évaluation des impacts environnementaux des technologies. En fin d'émission, ce sera l'heure de l'actualité avec le journal de l'écho de Xavier Martinet.
Le marché du radiotéléphone et d'une manière plus générale celui de la téléphonie mobile explose. Nombre de revendeurs d'accessoires de voitures découvrent dans le téléphone un second souffle. Les investissements d'aujourd'hui seront les bénéfices de demain si, comme on l'annonce, 4 millions de Français seront possesseurs d'un radiotéléphone d'ici 10 ans contre un peu plus de 100 000 en ce moment.
Le marché de la radiotéléphonie, c'est le marché demain, parce qu'actuellement aucune société peut se passer de la communication. On redécouvre à ce jour la communication et les outils de communication, au même titre que le fax, le radiotéléphone et tous les éléments qui permettent à une société d'avancer beaucoup plus vite.
Le radiotéléphone, dans sa version actuelle, style Radiocom 2000 ou futur style Itineris, va passer de l'objet signe de reconnaissance sociale pour cadre supérieur à l'outil aussi banal qu'une carte bleue, même si le prix reste élevé.
Bonjour Céline Lescope et Guillaume Mandil.
Bonjour.
Bonjour.
Avancer beaucoup plus vite, nous disait le vendeur de GSM dans ce reportage du 30 avril 1993. C'est aussi, près de 30 ans plus tard, la grande ambition de la 5G par rapport à la 4G, Céline Lescope.
Oui.
Expliquez-nous un petit peu quels sont les avantages, les améliorations que représente, qu'est censé représenter la 5G par rapport à la 4G. Qu'est-ce qui nous est vendu en quelque sorte?
La 5G, elle promet 10 à 100 fois plus de débit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer davantage de données avec une latence plus réduite, 10 fois moins importante. Donc ça fait quelques millisecondes contre quelques dizaines de millisecondes pour la 4G. Voilà, et ça va permettre en fait une plus forte densité d'appareils connectés.
Plus forte densité d'appareils connectés, plus de rapidité, également plus de bandes passantes, Guillaume Mandil.
Alors moi, je dois dire, je suis pas spécialiste des questions de 5G. J'ai une culture sur ce sujet qui est celle de l'auditeur lambda, mais c'est effectivement ce que j'ai entendu.
Alors à quoi la 5G et à qui est-elle censée servir? Aux entreprises davantage qu'aux particuliers, Céline Lescope? Est-ce que c'est cela qu'il faut s'attendre? Est-ce que cette 5G est censée se diriger vers l'internet massif des objets et le très haut débit dans les moyens de transport? Ça, ce sont les principaux usages qui nous sont aujourd'hui présentés.
Il y a deux grands types d'usages. Effectivement, il y a tout ce qui est objet connecté. Donc, il peut y avoir plein d'usages dans les transports, dans la météo, voilà. Et puis, il y a tout le volet vidéo, jeux vidéo en streaming, c'est-à-dire en flux. Qui est un secteur qui est plus de l'ordre des particuliers. Et le déploiement qui est envisagé aujourd'hui, c'est un déploiement à grande échelle pour particuliers.
Mais le sentiment qu'on a, et c'est également ce qu'on peut lire dans la presse, c'est que c'est peut-être qu'il n'y aura pas tellement de nouveaux services pour les particuliers, que ce sera cette 5G, surtout une amélioration du service existant pour le grand public, Guillaume Mandil.
Moi, je suis assez dubitatif sur ce truc-là parce que j'ai quand même l'impression que les entreprises, déjà, d'une part, pour proposer leurs services, il va bien falloir qu'elles les proposent à des gens. Et ces gens-là, bah, du coup, c'est peut-être eux qui vont être possesseurs ou en tout cas à qui on mettra à disposition les objets connectés. Et puis, d'autre part, j'ai l'impression que dans cette question-là... On est en train de nous dire les objets connectés, ça va être à destination des entreprises, et on a entendu ce discours ces derniers jours à plusieurs reprises. Et d'un autre côté, je trouve que c'est pas très raccord avec les performances de ce réseau. Et si c'était seulement au service des entreprises, j'aimerais que les choses soient claires de savoir pourquoi au service d'un si petit nombre d'entités, la 4G est pas suffisante. Et l'argument qui est fait, c'est on va massifier l'internet des objets. Pour massifier ça, j'ai l'impression qu'il va falloir nécessairement toucher le citoyen lambda, moi.
Vous avez l'impression, vous aussi, Céline Escope, que c'est un discours qui viserait à favoriser la 5G que de la présenter comme essentielle pour les entreprises et donc essentielle à l'activité économique?
Bah après, ça va dépendre des cas d'usage et des typologies d'objets connectés. On pourrait imaginer aussi des déploiements de 5G uniquement sur certains sites industriels, donc très localisés. On peut pas dire que le débat actuel repose vraiment tranquillement les problématiques.
C'est un débat qui est effectivement conflictuel. Alors, il faut peut-être prendre un exemple précis pour voir les différents usages de cette 5G. En avril 2019, un chirurgien chinois, Ling Zipei, a réalisé la première chirurgie cérébrale à distance, justement en utilisant la 5G. Le patient qu'il opérait se trouvait à 3000 km de lui.
但是从4G比较5G比较的情况呢，确实，因为5G来讲，就你们也看到了。Le réseau 5G a réglé certains problèmes qu'on avait expérimentés sous la 4G, comme les décalages vidéo et les délais de télécommande.非常流畅，没有明显的卡顿现象。On espère à l'avenir tirer parti du réseau 5G pour que plus d'hôpitaux encore puissent réaliser de la chirurgie à distance. Alors, plus de patients auront la possibilité d'être soignés dans leur hôpital de proximité.
Est-ce que la 5G pourrait révolutionner la chirurgie, selon vous, Guillaume Mandil? Est-ce que c'est l'un des usages qui est peut-être le plus intéressant?
Je ne sais pas si c'est le plus intéressant. En tout cas, moi, ce qui me surprend dans ce truc-là, c'est qu'on est en train de vanter des avantages techniques de ce réseau que je ne remets pas en cause. Mais par contre... si il est question uniquement d'équiper quelques hôpitaux et quelques activités, pourquoi déployer ce réseau partout, tout le temps, à disposition, avec une disposition aussi massive? Pourquoi pas simplement se contenter de quelques activités prioritaires sur lesquelles il y a des problèmes techniques, en fait?
Alors effectivement, plusieurs questions se posent aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de la 5G maintenant? Est-ce qu'on en a besoin tout court? La 4G aussi, à l'époque, avait suscité des débats, Céline Escope?
Oui, mais enfin, depuis, il y a eu les accords de Paris. Pour venir un peu au sujet, puis peut-être à notre domaine d'expertise, c'est-à-dire que les accords de Paris ont posé le fait qu'on a un stock de CO2 qu'on peut émettre en lien avec le réchauffement de la planète. Voilà. Et donc la façon dont on a innové jusqu'à présent a émis énormément de gaz à effet de serre. Et donc si on ne change pas cette façon d'innover, cette façon de progresser, eh bien on ne va pas respecter les accords de Paris. Je vais juste rappeler un petit détail, hein. Mais la part des gaz à effet de serre qui sont dus au numérique dans le monde, c'est 3,5%. Donc on va dire c'est pas forcément aux normes, bon, c'est quand même plus que l'aviation. Donc ça, c'est déjà une chose. Et ce qui est dramatique, c'est que ça augmente de 9% par an. Une augmentation de 9% par an, ça veut dire que on va doubler très très vite ces impacts. Et dans un contexte où il faut qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre d'environ 5 à 7% par an au niveau global, d'avoir un secteur qui augmente, ça suppose de vraiment être très précis sur ce que ce secteur apporte comme gain d'émissions éventuellement sur les autres secteurs. Mais on peut plus se permettre... de faire ces émissions sans être certain que on ne va pas gravement endommager le climat et la biosphère ce faisant. Donc ce qui a changé fondamentalement depuis toutes les innovations technologiques, c'est ça. C'est qu'il y a eu les accords de Paris, qu'on a ce budget carbone à respecter. Et ça change, en tout cas en ce qui me concerne, fondamentalement la donne. Oui.
Il faut expliquer en effet que la consommation numérique ne cesse d'augmenter parce que les besoins augmentent aussi, Guillaume Mandil. Et cette numérisation de l'économie à laquelle on assiste s'est accélérée aussi avec la crise du coronavirus.
C'est pas une trajectoire qui est, c'est une trajectoire qui est assez générale, ce truc-là, en fait. Ça se relève sur la plupart des technologies, cette trajectoire, où au cours du déploiement d'une technologie ou d'une série de technologies, en dépit d'une amélioration de l'efficacité de la technologie, ben, en fait, les usages augmentant plus vite que ce que l'efficacité permet de réduire les impacts d'un usage individuel, eh bien, globalement, sur la plupart des technologies, c'est vrai pour les technologies de l'énergie, c'est vrai pour les technologies de la mobilité, c'est vrai pour toutes les séries de technologies des télécommunications, ben, les impacts par unité de production diminuent, c'est l'efficacité qui augmente, mais par contre, si on fait la somme de toutes les utilisations, les impacts globaux augmentent. Et donc ça, c'est une trajectoire qu'on observe partout, qu'on a observé quand on est passé de la 3G à la 4G, quand on est et sur tout un tas de technologies. Donc c'est une trajectoire qui est assez générale, cette histoire de l'augmentation.
En France, aujourd'hui, on compte 61 millions de smartphones en service, 64 millions d'ordinateurs et 30 millions de box, et effectivement, ça continue à augmenter, c'est l'Inescope.
Oui, tout à fait. Et pour aller dans le sens de ce que dit Guillaume, pour comprendre pourquoi ces gains d'efficacité ne permettent pas finalement de réduire le volume complet, bah, on fait une expérience collective actuellement de la crise sanitaire avec le coronavirus, où on voit bien que plus on a de malades, plus on a de gens qui sont contaminés. Bah, dans le numérique, on a un phénomène similaire, c'est-à-dire que plus on a d'objets connectés, plus on a de systèmes, plus on génère de données. Plus on génère de données, plus on a besoin de réseaux. Plus on a besoin de réseaux, bah bon, plus on a besoin d'infrastructures pour ces réseaux. Et donc, on est dans ce qu'on appelle, enfin, quelque chose qu'on, des boucles de rétroaction qui viennent augmenter systématiquement le phénomène. Et le numérique, dans son ensemble, est complètement pris dans ces boucles aujourd'hui, où dès qu'on augmente une capacité, qu'elle soit de stockage, ça s'est vu avec le big data, que ce soit le réseau, là, avec la 5G, que ce soit avec les typologies d'objets qu'on peut connecter, eh bien cet écosystème grossit. Donc ces émissions de gaz à effet de serre grossissent. Et moi, je travaille dans l'entreprise. Les coûts de ce système grossissent aussi. Sa complexité grossit. Enfin, il grossit de partout. Et donc au Shift, en fait, on a eu envie de proposer un programme de remise en forme de ce système. Parce qu'en fait, un système qui grossit comme ça, de façon non contrôlée, bah on le voit très bien avec la crise sanitaire, ça nous pose quand même des gros problèmes.
Alors pour bien comprendre et pour bien mesurer cette empreinte environnementale de la 5G, il faut expliquer que la 5G pourrait exprimer toutes les possibilités dont on a parlé, en termes justement d'objets connectés, etc., à condition de multiplier les antennes, parce que plus les fréquences sont hautes, plus il faut de puissance pour parcourir la même distance, Céline Nescope.
Oui, tout à fait.
Vous pouvez nous expliquer cela en détail?
Ouais, moi, je suis pas non plus une experte de la 5G, mais oui, enfin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une antenne de 5G va couvrir une surface moins grande qu'une antenne 4G, donc il va falloir bah, tout simplement en mettre plus. Et donc, la matérialité, parce que l'impact environnemental vient avec la matérialité. Et donc, le gain d'efficacité qu'on va avoir sur une antenne, il va en quelque sorte s'annuler par le fait qu'il va falloir plus d'antennes. Et il y a plus de matérialité à avoir avec cette technologie.
Alors, en valeur absolue, les antennes 5G consomment environ 3 fois plus que les antennes 4G, selon l'opérateur Orange. Mais les défenseurs de la 5G affirment que celle-ci sera à terme moins énergivore que la 4G. Pour le dire autrement, c'est l'idée que les antennes intelligentes devraient améliorer l'efficacité énergétique, Guillaume Mandil.
Moi, je trouve cet argument-là assez fallacieux, parce qu'en fait, si on regarde la façon dont fonctionnent les réseaux de télécom et les générations successives de réseaux de télécom, en fait, la 4G n'a pas remplacé la 3G, qui n'a elle-même pas remplacé la 2G, mais ces générations successives se sont superposées. Ça veut dire que le réseau 3G est toujours a toujours quasiment la même charge que celui qu'il avait avant l'apparition de la 4G. Et en fait, les usages de la 4G se sont superposés aux usages de la 3G. Et ce qui est tout à fait, et il y a rien qui indique qu'il se passera pas la même chose avec la 5G. Donc peut-être que la 5G est plus efficace par unité de par mégaoctet transmis par exemple que la 4G, mais n'empêche que les données qui sont transmises par la 4G vont continuer de perdurer et celles qui seront transmises par la 5G vont s'ajouter par-dessus. On ne va pas éteindre le réseau 4G pour le remplacer par le réseau 5G, en fait. C'est complètement faux, cette histoire.
Tout cela va se faire finalement de façon très progressive, le déploiement de cette nouvelle technologie, Céniléscope. C'est ça qu'il faut comprendre.
Ça, c'est certain, parce que ne serait-ce que le parc de téléphone ne va pas changer du jour au lendemain. Donc. Mais c'est le cas de toutes les innovations technologiques. En fait, on ne peut jamais. Moi, je travaille beaucoup sur des bilans carbone en ce moment sur le numérique, et on voit bien que quand on amène une nouvelle technologie, même si elle est plus efficace, en fait, on a toute une période où plusieurs technologies cohabitent et où du coup, bah là, on a multiplication des impacts. Donc ça, c'est certain. Et puis ensuite, il faut voir si on peut effectivement à terme enlever la 4G, ce qui est pas forcément évident. Mais de façon très concrète, au départ, hein, c'est une augmentation de 30% de la consommation d'électricité au minimum, et ça peut aller jusqu'à 150% si on est sur des ambitions très importantes. Et donc cette augmentation de l'électricité, de la consommation électrique, c'est très impactant dans un moment où on doit réduire. Ouais.
Et donc si on comprend bien, ce ne sera pas, cette 5G ne sera pas moins énergivore que la 4G selon vous, à cause du fait qu'il y aura une augmentation de la consommation de données mobiles. C'est-à-dire même si on a une plus grande efficacité de ces antennes intelligentes, une plus grande efficacité énergétique, ça vous n'en doutez pas, c'est le Céniléscope, mais ça va être compensé par l'augmentation de la consommation de données mobiles.
Oui, en fait, quand vous regardez un impact environnemental, c'est important de prendre un périmètre complet. La question du CO2 dans l'atmosphère, c'est une question en valeur absolue. C'est pas une question sur un périmètre. Donc si l'antenne elle-même va consommer moins d'électricité, mais s'il faut plus d'antennes, bah, au total, il faut plus d'électricité. Voilà. Donc en fait, quand on cherche à mesurer un impact environnemental, il y a quelque chose qui est très important, c'est le caractère holistique du périmètre qu'on prend en considération. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que jusqu'à présent, on n'a pas été très doué à le prendre en compte, effectivement.
C'est effectivement l'un des enjeux, Guillaume Mandil, aussi pour le consommateur, de bien comprendre tous les éléments qui entrent en compte dans l'évaluation de l'empreinte énergétique d'une technologie comme la 5G.
Ben oui, et ça c'est un problème compliqué parce que pour bien faire le travail, il faut compter tous les impacts environnementaux qui vont depuis l'extraction de toutes les matières premières qui sont nécessaires pour rendre ce service jusqu'à le dernier des traitements de fin de vie de tous les équipements qui auront été aussi nécessaires. Et sur ce point-là, du coup, je dois dire qu'il y a quand même un peu un éléphant dans la pièce dont on parle très peu sur cette question-là, c'est la question des terminaux, des smartphones et des objets connectés qui vont se connecter à ce réseau 5G, parce que sur ce plan-là, Samsung, qui avait fait une étude, une analyse du cycle de vie du service rendu par un smartphone en 2016, avait lui-même conclu que la plus grosse source d'impact de ce service, c'était la fabrication du smartphone lui-même. Et donc du coup, ça me surprend toujours, moi, que cette question de la fabrication des équipements, des smartphones 5G qui vont être nécessaires pour se connecter à ce réseau, soit jamais abordé dans ce débat-là.
Sachant que, comme vous l'avez dit, effectivement, Céniléscope, il faudra changer de smartphone pour avoir accès à la 5G, alors même que le renouvellement des téléphones aujourd'hui est déjà très rapide, et puis peut-être aussi que les consommateurs auront envie d'acheter plus d'objets connectés.
Bah oui, il faudra changer le frigo aussi, le téléphone, sans compter que d'ajouter davantage d'électronique dans tous ces équipements va les rendre plus compliqués à réparer et donc va probablement pas aider à l'allongement de leur durée d'utilisation. Or, Guillaume a tout à fait raison, quand on regarde l'impact global là, dans ces émissions de CO2, il y en a la moitié qui sont dues à la fabrication du matériel et l'autre moitié qui sont dues à leur usage. Et c'est vrai que la partie fabrication, enfin qui est extrêmement coûteuse parce que comme le rappelait Guillaume, il faut aller extraire des minerais dans la couche terrestre et ensuite il faut les ramener dans des points pour les assembler, ça coûte énormément en termes d'émissions de CO2. CO2. Il n'y a pas que le CO2 sur cette partie-là, puisque il y a énormément, enfin il faut retourner énormément de terre. Il y a des grosses mines dans des pays qui sont pas toujours, enfin dans des conditions idéales pour impacter au minimum l'environnement. Et du coup, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. La question du renouvellement des téléphones et la question d'augmentation de l'électronique dans tous les appareils, il n'est pas d'un point de vue environnemental, en tout cas, il est à peu près évident que c'est pas une bonne chose.
Et sans doute faut-il évoquer aussi l'impact écologique des data centers, ces centres de données qui sont extrêmement énergivores, sachant que la quantité de données dans le monde augmente déjà de 25% par an. Écoutez Justin Rosenstein, il est programmeur et entrepreneur de logiciels. C'est lui qui a inventé le pouce en l'air si populaire sur Facebook.
Parler d'une seule intelligence artificielle, c'est une métaphore. Dans les locaux d'entreprises comme Google, par exemple, on peut retrouver des pièces proprement gigantesques, parfois sous terre, parfois même sous l'eau, comprenant chacune des ordinateurs, des milliers et des milliers d'ordinateurs à perte de vue. Ils sont profondément interconnectés entre eux grâce à des programmes très sophistiqués qui leur permettent de s'envoyer des informations en continu. Ils y font tourner des multitudes de programmes et de produits différents. Certaines de ces choses peuvent être décrites comme de simples algorithmes, et d'autres sont carrément de vraies intelligences.
Un extrait du documentaire de Jeff Orlovsky intitulé « Derrière nos écrans de fumée » disponible sur Netflix. Les data centers, Guillaume Mandil, sont responsables d'une pollution méconnue.
Je ne sais pas si elle est méconnue pour beaucoup de gens, mais en tout cas, si elle l'est, c'est vraiment un problème. Et parce que ça fait partie du cycle, de tous les équipements qui sont nécessaires pour fournir de la donnée sur un smartphone aux utilisateurs. Et sur le plan des impacts, moi, je voudrais ajouter deux petites choses. C'est qu'on a beaucoup parlé de CO2 jusqu'ici, et Céline a ouvert des portes, là, mais qui conviendrait de préciser peut-être un peu sur le fait que impacts environnementaux, c'est quelque chose qu'il faudrait plutôt employer au pluriel qu'au singulier, parce que on parle beaucoup du CO2 depuis les accords de Paris, mais il y a quand même pas mal d'autres choses qui impactent dans les problèmes du numérique. Il y a par exemple les problèmes de l'eau, parce que quand on essaye de purifier les métaux à la sortie des mines pour les extraire, ben, ça demande beaucoup, beaucoup d'eau, et ces problèmes d'eau dans les mines, par exemple pour les téléphones portables, ben ça génère des tensions sur l'accès à des populations avoisinantes de ces mines à de l'eau potable, par exemple. Donc ça, c'est un problème qu'il faut mentionner. Il y a aussi le problème de la quantité de ressources disponibles. Dans les travaux d'Olivier Vidal, qui est un chercheur à Grenoble là-dessus, là, il disait si on voulait faire... Alors c'est sur des questions de transition énergétique, si on voulait extraire tout le cuivre qui serait nécessaire pour la transition énergétique, il expliquait qu'il allait falloir se mettre à creuser des trous un peu partout et pas seulement loin de chez nous. Et donc tous ces impacts-là, à force de ne parler que de CO2, on les oublie un peu, alors qu'ils sont au moins aussi dégradants pour nos conditions de vie futures que les problèmes de CO2.
Alors effectivement, l'empreinte écologique ne se limite pas au CO2 et au flux d'électricité comme ce qu'on peut voir dans les data centers, mais un mot tout de même sur ce que représentent ces centres gigantesques, sachant que pour l'informaticien Guy Pujol, interrogé par l'Usine Nouvelle, la vraie révolution de la 5G réside justement dans l'usage de ces data centers, Céline Lescope.
Les data centers, c'est à peu près, l'usage des data centers, c'est à peu près 20% de cet impact en gaz à effet de serre. Donc oui, c'est un gros morceau. Le fait d'augmenter, quand vous allez brancher un objet connecté avec la 5G, en fait, dès que vous allez le brancher, il va envoyer des flux de données vers ces data centers. Et donc le data center va devoir ajouter des serveurs pour accueillir ces flux de données. Voilà. Donc ils vont grossir aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme si on ouvrait une porte plus grande vers un flux qui nous pose déjà des problèmes qu'on a constatés et qu'on va aggraver finalement l'empreinte globale à tous les niveaux. Oui.
Alors face à ce risque environnemental ou ces risques environnementaux, faut-il réguler la consommation numérique ? On en parle dans un instant.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format at it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it. Touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite.
Technologique de Daft Punk sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, la 5G est-elle compatible avec la transition écologique? C'est le sujet de notre discussion aujourd'hui en compagnie de Céline Lescope et de Guillaume Mandil. Alors on a parlé des empreintes environnementales de la 5G, le pluriel est important, nous avez-vous dit Guillaume Mandil, mais est-ce que ces chiffres qu'on a pu relever ne sont pas à prendre avec précaution, Céline Lescope, parce qu'en réalité il est très difficile de mesurer l'impact environnemental du numérique.
Bah non.
Comment fait-on? Expliquez-nous.
On peut mesurer hein, l'impact environnemental du numérique. Je pense que Guillaume a sûrement travaillé un peu dessus. Mais l'impact environnemental du numérique, il est de deux ordres. Déjà, il y a l'électricité. Hein, donc l'électricité dont a besoin le numérique et l'impact environnemental de cette électricité. Selon le lieu où vous branchez votre équipement électrique, la nature de votre électricité va être différente. Si vous le branchez ensuite en Suisse, vous êtes très il y a beaucoup d'hydroélectricité, donc voilà. Si vous êtes en France, vous avez une majorité, on va dire, de nucléaire. Et puis il y a d'autres pays où ça va être le charbon. Hein. Au niveau mondial, il y a 80% d'électricité qui est produite avec soit du charbon, du pétrole ou du gaz. Autant dire que, voilà. L'autre chose qui caractérise le numérique, c'est que quand vous utilisez votre téléphone, vous n'utilisez pas nécessairement que des serveurs qui sont situés en France. Hein. Donc, le fait qu'en France, on ait une électricité assez décarbonée, quand on est sur le numérique et qu'on utilise des services numériques, on peut être sur des serveurs qui sont hébergés dans des pays où l'électricité est beaucoup moins décarbonée qu'en France. Donc, notre empreinte, là, devient importante. Donc, ça, c'est une première chose. Consommation électrique. Et puis l'autre volet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la matérialité. Alors là, quand on est moi je me place au niveau d'une organisation qui a un système d'information. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les inventaires, on va compter combien de serveurs on a, combien d'ordinateurs on a, combien de box on a, combien d'écrans. Et
Les constructeurs fournissent aujourd'hui l'ADEME aussi, qui est l'Agence française pour la transition énergétique. Enfin, il y a un certain nombre de données qui vous disent, voilà, tel objet, pour le fabriquer, ça a émis tant de gaz à effet de serre. Donc après, voilà, il y a les données sont plus ou moins correctes, mais oui, on sait mesurer cet impact. Et ce qui est important, au-delà de la valeur absolue, c'est d'être capable de voir si cet impact, il grossit ou s'il réduit. Et en fait, bah, le jeu, c'est quand même d'arriver à le réduire.
Il y a peut-être deux enjeux, Guillaume Mandy. Le premier, c'est d'évaluer, d'estimer cet impact et ensuite de communiquer sur cet impact dans un environnement, une société où de plus en plus de consommateurs se soucient de l'empreinte énergétique de ce qu'ils consomment.
Alors, sur ce plan-là de l'évaluation des impacts, en fait, Céline a raison, hein, on a des méthodes fiables pour évaluer les impacts environnementaux du numérique. Ce qu'il y a, c'est que, en général, ce qui pose problème, ou en tout cas ce qui rend la question controversée, c'est que les méthodes et les périmètres sur lesquels on fait ces évaluations sont pas toujours communiqués par les gens qui font ça de façon transparente. Et puis, en général, suivant la question qu'on traite, ce qui est de savoir à quel point ça va rendre service aux gens, à quel point c'est dangereux pour l'environnement, à quel point c'est quelque chose de rentable, bah, toutes ces choses-là sont pas évaluées suivant le même scénario ou suivant le même périmètre. Mmh. Et du coup, ça rend les choses très très compliquées à démêler parce que d'un point de vue méthodologique, ben on parle pas toujours exactement de la même chose. Et donc moi, je serais quand même assez intéressé par l'exercice intellectuel de dire, est-ce qu'on pourrait faire une évaluation des impacts économiques et financiers de la 5G et des impacts environnementaux de cette même 5G en se basant, par exemple, sur le même document qui serait le business plan de Orange, de SFR ou de Bouygues Télécom pour le déploiement de cette question. Ce truc-là, c'est un scénario, le business plan des opérateurs téléphoniques, duquel ils nous disent ça va être rentable, ça va être formidable pour rendre service aux citoyens, etc. Mais quand il s'agit d'évaluer les impacts environnementaux de la 5G, ils prennent pas du tout ce scénario-là.
Ce que vous voulez dire, c'est que c'est moins rentable si on prend en compte justement les externalités environnementales.
Ben, ce que je veux dire juste, c'est qu'on nous vend des bénéfices sociétaux et économiques suivant un scénario, et quand il s'agit de quantifier les impacts environnementaux, on choisit un autre scénario. Moi, je dis que c'est pas honnête.
Alors, c'est intéressant, cette question. En effet, Céline Lescope, par exemple, Apple va déclarer que ses data centers consomment de l'énergie 100% renouvelable, mais l'entreprise ne prend pas en compte la production des panneaux qu'ils utilisent. Il y a un véritable enjeu autour de l'information ici. L'information auxquelles les consommateurs ont accès.
Il y a effectivement une technique qui consiste à dire, ah, comme j'ai consommé de l'électricité renouvelable, j'ai zéro impact environnemental. Donc oui, bah, comme pour le numérique, il y a une matérialité des équipements qui produisent de l'énergie renouvelable. Et il y a aussi une surface au sol, hein, les énergies renouvelables que sont le solaire et le vent, l'éolien, sont des énergies qui sont très diffuses et qui nécessitent d'avoir des grosses surfaces. On voit bien les éoliennes dans la campagne ou les panneaux solaires. En fait, pour arriver à produire beaucoup d'électricité, il faut beaucoup de surfaces et aussi beaucoup de matériel qui, eux aussi, exploitent les mêmes ressources minières que le numérique en partie et qui ont un gros impact environnemental pour leur production. Mais surtout, moi, ce que je trouve quand même assez malhonnête, c'est quand on sait que 80% de l'électricité mondiale est produite par des énergies fossiles, que notre consommation d'électricité mondiale ne fait que augmenter et que, bah, pour réussir la transition énergétique, il faut la baisser, hein.
Vous diriez qu'il y a une inconscience aujourd'hui de ces impacts environnementaux du numérique? Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être des exemples?
Non, bah, en fait, une inconscience, c'est sûr qu'on aimerait bien pouvoir, voilà, continuer à fonctionner comme on a fonctionné sans réfléchir à tout ça. C'est peut-être plus commode, mais
c'est par exemple ne pas ouvrir ses mails ou garder des mails dans sa boîte mail. Ça, c'est quelque chose qui consomme beaucoup et dont on n'a pas forcément conscience.
Ouais. Tout stockage de données a une matérialité numérique dans les réseaux, surtout maintenant on a tendance à stocker sur les serveurs. Donc ça veut dire qu'il y a une copie sur votre poste, une copie sur le serveur, une copie qui transite dans les équipements réseau. Oui, il y a plus on a de données et donc on est habitué à stocker les données de façon infinie en fait. fait, on est rarement dans une position de se dire, ah bah voilà, je... et on n'est pas outillé pour ça en plus. Donc oui, la matérialité, enfin les données, c'est une des premières matérialités très concrètes du numérique. Oui, tout.
Selon Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, on est incité à toujours plus accumuler de données justement, et la 5G va créer, selon lui, des besoins inutiles. On l'écoute.
On a déjà aujourd'hui des dizaines de millions d'objets connectés. Le projet de la 5G, c'est de passer tous vos objets connectés. Vous pourrez déclencher votre grille-pain, vous pourrez allumer depuis votre lit, ouvrir vos volets électriques. Moi perso, j'aime bien ouvrir mes volets. Je regarde les montagnes, c'est magnifique, jour, j'ai un peu d'air. J'ai un petit contact, je me rappelle que je suis un animal. Ben, je préfère ouvrir mes volets à la main que de pouvoir les faire depuis mon portable dans mon lit.
L'exposition est moins permanente quand même qu'avec la 4G, on est d'accord?
C'est pas tellement une question de santé pour moi, hein. C'est une question de transition énergétique. 4% des gaz à effet de serre aujourd'hui, c'est le numérique, et on prévoit que ça double en 5 ans. Donc si on ne fait rien, on va avoir plein d'objets connectés qui nous serviront à rien. C'est quoi notre vie quotidienne? C'est quoi notre projet de vie? C'est quoi le sens et l'authenticité de notre vie par rapport à cette espèce de technoscientisme qui nous pousse des trucs?
Alors, selon l'opérateur Orange, je cite, un nécessaire travail de pédagogie et d'accompagnement sur les usages clients devra être réalisé pour tendre vers une sobriété énergétique optimale. Mais Guillaume Mandy, il va être difficile pour les opérateurs d'inciter à la consommation et à la sobriété en même temps.
Ça, c'est sûr. Le reportage que vous aviez diffusé en 1996, là, disait que l'objectif, c'était d'avancer beaucoup plus vite. Et je pense que cet objectif, on le poursuit sans discontinuer depuis lors. Et du coup, tant que l'objectif, c'est de faire progresser des parts de marché et des choses comme ça, et tant qu'on se pose pas un objectif, comme disait Céline, d'émission globale en valeur absolue, de se dire, bah, il y a une limite. C'est par exemple celle des accords de Paris, et on pourrait être plus ambitieux sur ce plan-là. Et on doit faire des choses pour ne pas dépasser cette limite. Tant qu'on a un objectif implicite qui est d'avancer beaucoup plus vite, de faire croître, c'est à peu près certain qu'on n'arrivera pas à atteindre des objectifs de sobriété avec des injonctions aussi contradictoires.
Mais alors que faire, Céline Lescope? Est-ce qu'on peut imaginer de rationner Internet?
Bah, écoutez, moi, les ingénieurs informaticiens, jusqu'à présent, ils n'ont pas travaillé sur ce sujet. Moi, je viens juste là. Hier, j'ai donné un cours à l'ENSIE, qui est une école d'ingénieurs en informatique, sur l'informatique durable. C'est la première fois qu'il y a une option dans cette école.
On en est au balbutiement.
Donc, moi, comme ingénieur, ça fait un an que je bosse vraiment là-dessus, parce que je me suis mobilisée, qu'on m'a permis de le faire. Moi, je dis que si les ingénieurs se mettent à travailler sur le sujet, oui, bien sûr, ils vont trouver des solutions. En fait, on n'a rien fait. Enfin, alors, c'est peut-être, ça paraît pas d'être provocant, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas formé. C'est quelque chose qu'on ne pilote pas. C'est un indicateur qu'on ne regarde pas. On est en train de changer, on est en train de le faire. Mais bien sûr qu'à partir du moment où on va travailler dessus, on va obtenir des résultats. Ça, j'ai absolument aucun doute.
Quelles sont les pistes qui se dessinent aujourd'hui pour limiter l'impact écologique du numérique, Guillaume Mandil?
En fait, il y a la question dont on a déjà parlé, qui est du fait que l'efficacité individuelle, que ce soit d'un équipement ou d'un comportement, ne se traduit pas forcément au niveau macroscopique par une baisse globale des consommations. Ce truc-là, ça a été constaté au tout début par l'ingénieur anglais Jevons en 1865, quand il a constaté que le fait que les machines à vapeur soient plus efficaces, ça impliquait pas une diminution de la consommation de charbon, mais une augmentation. Et ça s'appelle l'effet rebond, ce truc-là. Mmh. Et en fait, du coup, la question de l'ingénierie, c'est une question qui est secondaire, d'après moi, sur cette question, parce que l'idéologie qui nous fait poursuivre une croissance câble, entre guillemets, un effet rebond de façon mécanique. Et donc, du coup, la première question à se poser, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on va faire pour sortir de cette logique de l'effet rebond. Et ce truc-là, pour essayer de commencer à répondre à cette question, il faudrait déjà qu'elle soit formulée clairement et que tous nos concitoyens se l'approprient, cette question de l'effet rebond.
Ce qui est intéressant, c'est que Asa Raskin, l'ingénieur américain qui a inventé le scroll infini, c'est-à-dire cette possibilité de faire défiler sans fin du contenu sur son smartphone, lui estime qu'il faudrait limiter soi-même notre consommation, ce qui est tout de même paradoxal. Et je voudrais vous faire entendre justement un extrait d'une interview réalisée par Envoyé spécial il y a quelques jours, dans laquelle il revient sur son invention.
En tant qu'inventeur, je sais comment fonctionne le cerveau. C'est un peu comme quand vous buvez du vin. Quand vous avez terminé le verre, il y a un réflexe neuronal, vous vous dites, tiens, est-ce que je m'arrête ou est-ce que j'en prends un autre? Maintenant, imaginez un verre qui se remplirait sans cesse par le fond, sans que vous le réalisiez. Vous boiriez beaucoup, beaucoup plus, et c'est ce qui se passe ici. Il y a un an, j'ai calculé combien mon invention avait fait perdre de temps à l'humanité. Et c'est effrayant. En durée, c'est l'équivalent de 200 000 vies chaque jour. Alors, il y a des réflexes à adopter, comme par exemple interdire toutes les notifications autres que les messages adressés par un être humain, ou basculer son écran en gris. Sans couleur, l'écran est nettement moins attractif.
En noir et blanc.
Voilà, en noir et blanc.
Ça aide à déconnecter ? Faites voir.
Là, vous voyez, j'ai retiré toutes les applis de mon écran d'accueil.
Et ça aide ?
Ça aide, oui. Comme ça, votre cerveau n'est plus attiré par les petites bulles rouges qui vous font vous dire « Tiens, une alerte !»
Céline Lescope, que pensez-vous de cette idée selon laquelle c'est finalement à chacun de trouver des parades pour ne pas être aspiré par l'univers d'Internet ?
Bah oui, pour moi, il y a un travail à plusieurs niveaux. Il y a effectivement à chacun de trouver ses parades. Enfin, hein, la question de la concentration avec le numérique, c'est un sujet. Avec l'école à la maison, là, on l'a bien vécu pendant le confinement. Il y a du travail à faire à tous les niveaux. Il y a du travail à faire au niveau de la conception des différents logiciels pour les rendre les plus sobres possibles et peut-être faire en sorte qu'ils protègent eux aussi davantage la concentration sans qu'on ait besoin de les cacher ou de les fermer. Et puis, il y a un travail à faire sur la partie matérielle. Il faut clairement rendre le matériel beaucoup plus réparable. Hein, imaginez de la pérennité programmée. d'imaginer d'avoir des
choses en lieu et place de l'obsolescence,
qui soient réparables ou qu'on sur lesquels on puisse le Fairphone, je crois qu'on peut enlever le l'appareil photo peut être remplacé par un autre appareil photo, donc on peut imaginer avoir un appareil photo plus performant mais en gardant le même équipement. Et là par contre on peut innover, là on peut y aller à fond.
Mais ça nécessite peut-être un certain nombre d'investissements pour que ces téléphones intelligents, ces Fairphone, ces téléphones plutôt éthiques, c'est comme ça qu'on pourrait les traduire, trouvent leur public. Guillaume Mandil.
Mais surtout, en fait, moi, je trouve ça extrêmement culpabilisant de toujours renvoyer la question à la responsabilité individuelle du consommateur quand on lui met sur ses écrans et dans son espace de vie des publicités qui l'incitent à toujours surconsommer. Puis après, on lui donne des injonctions en lui disant « tu surconsommes, c'est toi le problème », etc. D'autant plus que si on fait le parallèle d'impact environnementaux, le cabinet Carbon 4 là, a produit une étude il y a à peu près un an qui s'appelle « Faire sa part » et qui montre qu'en fait, si on souhaite atteindre les objectifs des accords de Paris de façon globale, ce qui est accessible globalement par la consommation individuelle des citoyens, c'est à peu près un quart de l'objectif. Et les trois quarts du reste, ça serait la responsabilité de l'organisation globale dans laquelle on vit et sur lequel nos comportements individuels n'ont pas d'impact. Donc je vois pas comment cette question de responsabilité individuelle pourrait être franchement différente pour les questions du numérique.
Quel rôle pourrait jouer le régulateur, Céline Lescope ? Est-ce que il serait possible de limiter la consommation de numérique ?
Ah bah le régulateur, il peut faire plein de choses extraordinaires par rapport à ça. Hein. Il faut arriver à calmer les choses. Bah, enfin, je pense que les choses sont en route par rapport à ça, parce qu'il y a eu différents documents à la fois du Sénat, à la fois du Conseil national du numérique ou de France Stratégie, qui, je crois, est le cabinet de conseil qui est dédié au Premier ministre. On fait tous les trois des publications par rapport à la question de l'impact environnemental du numérique, donc sur le territoire français, enfin en France, et donc on peut penser que, enfin c'est des travaux préliminaires à de la régulation, mais il y a déjà quelque chose qui est prévu, c'est que d'obliger les opérateurs à afficher en fait l'impact environnemental du service qu'ils consomment, et je crois que l'ADEME est en train de travailler là-dessus, donc on peut penser que la régulation va venir, et oui, bien sûr. Il faut de la régulation, oui. C'est
très important. Est-ce qu'il faudrait réserver, selon vous, la 5G à des usages restreints, à forte utilité sociale ou environnementale? Ça, c'est possible, Céline Escope?
Bah, ce qui est sûr, c'est que nous, enfin moi, dans le cadre de ce que je fais, on commence à faire ce qu'on appelle des business case carbone, c'est-à-dire on essaye d'évaluer qu'est-ce qu'on gagne en CO2 et qu'est-ce qu'on perd en faisant du numérique finalement. Pour répondre à votre question, avant de s'engager, l'impact environnemental aujourd'hui on le connaît, c'est pas un conditionnel, on le connaît. En face, il faut mettre des cas d'usage qui sont peut-être qu'on pourrait faire de la télémédecine, on n'est pas complètement sûr. Il faut mettre des choses qui sont quand même un peu solides et en tout cas bien réfléchir avant d'avancer parce que on sait que les impacts sont très importants. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Guillaume Mondul, de restreindre la 5G à des usages à forte utilité sociale?
Alors moi je pense que c'est une bonne idée et je pense que sur ce plan-là, il y a un vrai problème de la part du pouvoir exécutif en France de démocratie, parce que quand on demande à la Convention citoyenne pour le climat de réfléchir à des choses, qu'il y a une mesure qui sort qui dit cette question-là, elle mériterait d'être débattue plus profondément dans la société, qu'on s'engage à respecter quand on est Emmanuel Macron, à transmettre toutes les propositions, et puis que finalement on censure ça et que on est insultant envers ces gens-là en les traitant d'amiches, moi je suis vraiment extrêmement gêné et j'aimerais bien par exemple avoir les réactions des garants de la Convention citoyenne pour le climat sur ce sujet et sur la question de la 5G, parce que la question de qu'est-ce qu'on peut faire comme régulation, elle incombe directement au pouvoir exécutif et là il nous a montré sa très faible volonté en la matière.
Vous parlez d'Emmanuel Macron, justement je voudrais qu'on l'écoute.
On doit aller plus loin, plus fort. Je pense que là, on va l'accélérer. Et évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et donc, on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Voilà des propos d'Emmanuel Macron tenus le 14 septembre dernier qui ont fait polémique. Quel regard posez-vous sur cette ligne de fracture, Céline Lescope, ligne de fracture dessinée par le président entre partisans de l'innovation et opposants au progrès?
Hier, on était dans le cours là avec les jeunes ingénieurs et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que dans 100 ans, dans 200 ans, nos descendants, ils aient encore du numérique. Je crois pas que cette vision soit un retour à la préhistoire.
Mais qu'est-ce que vous pensez de cette rhétorique du président?
Rien.
Guillaume Mandine, peut-être.
Moi, j'ai un avis là-dessus, si vous voulez. Moi, je trouve que dans ce truc-là, en fait, ce qui est le plus gênant c'est que c'est uniquement rhétorique. C'est-à-dire que, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire là, du temps qu'on vient de passer ensemble sur le caractère historique de ce qu'on sait et de ce qui est à peu près certain qui va advenir, etc., il me semble qu'aujourd'hui, la charge de la preuve sur le fait que la 5G est quelque chose qu'il faut faire et qui serait bénéfique pour l'environnement, elle devrait incomber aux promoteurs de cette idée-là, et que ce serait à Emmanuel Macron et à Orange de nous démontrer en dur que la 5G, c'est vraiment une bonne affaire pour l'environnement. Et pour le moment, je les attends de pied ferme sur ce terrain-là.
L'un des arguments consiste à dire que la France serait en retard sur le déploiement de cette technologie par rapport à d'autres pays. Est-ce qu'on peut, Guillaume Mandil, dans une économie mondialisée, refuser seule la 5G?
La question pour moi, ça serait plutôt, est-ce qu'on peut se permettre de dépasser durablement les objectifs environnementaux de l'accord de Paris, ou est-ce qu'on peut se permettre de dépasser durablement pour mes enfants et leurs enfants à l'avenir les limites de ce que peut supporter l'écosystème de la planète? Et je pense que cette question-là, elle met en jeu nettement plus de choses que la question de savoir si on va se faire distancier par les Chinois au plan économique.
Il faudrait en tout cas, comme le disait Guillaume Mandil, un grand débat démocratique sur ce que l'on veut faire de la 5G, selon vous, Céline Lescope. Il y a un déficit démocratique aujourd'hui?
Ah bah c'est sûr que, enfin là, bah de toute façon il a été demandé le moratoire par la Convention citoyenne pour le climat.
Il a également été demandé par une soixantaine d'élus, voilà, dont 11 maires de grandes villes.
Le Sénat avait aussi demandé à ce que ce sujet soit traité. Bah il l'a pas. Oui, enfin moi je pense que il y a vraiment une très forte légitimité à ce qu'on se penche sur la question et on n'est pas du tout à quelques mois.
Vous avez le sentiment qu'une fois de plus on sacrifie l'environnement à l'économie, on pourrait le dire comme ça?
Si on doit prioriser l'économie sur l'environnement, il faut que ce soit très clair. On peut peut-être se dire, on a un problème économique, il faut sacrifier l'environnement, mais il faut pas le faire passer comme si c'était une innovation qui allait résoudre les problèmes environnementaux. Enfin, aujourd'hui, quand même, ce qu'on entend sur la 5G, c'est que ça va être, dans le discours, c'est que ça va être une innovation qui va aider à relever les défis de demain. On n'a pas dit qu'on faisait cette innovation parce qu'on était dans une course économique qu'on va perdre. À ce moment-là, soyons très clairs, il y a l'économie d'un côté, l'environnement de l'autre. C'est deux choses différentes. Maintenant, de penser que l'économie pourra continuer à bien se porter dans un climat qui se dégrade, on est beaucoup à s'être penché sur cette question, à penser que ça ne sera pas possible. Donc il y a un moment donné où les choses se recroiseront, mais oui, les accords de Paris sont pas suffisamment pris au sérieux, ça c'est...
Guillaume Mandil, on manque de clarté, il faudrait mieux expliquer qu'on fait le choix de l'économie très clairement, plutôt que de prétendre qu'il y a des avantages écologiques dans la 5G pour vous aussi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la démonstration des avantages écologiques de la 5G, ça reste à prouver. Et moi, je demande aux promoteurs de cette idée-là d'en faire la démonstration scientifiquement et de mettre les mains dans le cambouis plutôt que de nous faire des effets d'annonce et de la communication. Mmh. Et puis ensuite, on pourra discuter.
Eh bien, grand merci à tous les deux pour cette discussion qui nous a permis de mieux comprendre les enjeux environnementaux de la 5G. Je rappelle, Céline Lescope, Guillaume Mandil, pardon, que vous êtes membre du groupement de services du CNRS Eco Info. Un grand merci à tous les deux. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet pour le journal de l'Écho.
France Culture, entendez-vous l'Écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Inquiétude à New York alors que son budget est sabré par la crise sanitaire. La première ville des États-Unis croule sous les dettes et la recherche d'une solution financière fait débat.
Oui, c'est une dette de 92 milliards de dollars, autant que son budget annuel. Voilà le ver qui ronge la grosse pomme depuis des mois. Début septembre, le maire Bill de Blasio a demandé à l'État de New York l'autorisation d'emprunter 5 milliards de dollars, sans quoi il menace de licencier 22 000 employés municipaux. Il faut dire que les difficultés de New York sont spectaculaires en proportion du poids de la ville dans le pays. Le métro a déjà réduit son activité, des enseignants sont licenciés, un quart des recettes fiscales s'est envolé. Le problème, c'est que non seulement la crise rend difficile toute solution par des hausses d'impôts, mais aussi que l'affaire fait ressurgir le souvenir d'une situation dramatique, la faillite de New York en 1975.
Une faillite évitée de justesse et la situation était très similaire à aujourd'hui?
Oui, parce que comme Bill de Blasio, aujourd'hui, le maire démocrate de l'époque, Abraham Beam, avait fait exploser les emplois municipaux et le budget. Et quand il avait demandé 1 milliard de dollars au Congrès à Washington, voici ce qu'un sénateur de son propre camp lui avait répondu.
Depuis le début, je vous entends sans cesse réclamer que le gouvernement renfloue votre faillite. Et puis vous répétez que vous vous arrangerez avec les banques. Autrement dit, ne vous souciez pas des gens dans la ville, on va calmer les banques. J'ai déjà entendu ce genre de choses dans ma jeunesse. Ça n'a jamais été ma tasse de thé, et encore moins maintenant.
Voilà, à l'époque, un consortium bancaro-municipal avait finalement permis d'obtenir des emprunts plus sains, mais aujourd'hui la marge de manœuvre est faible pour Bill de Blasio, accusé de gaspillage par le gouverneur de l'État de New York, voire de clientélisme par le New York Times, qui lui conseille tous deux de commencer par une cure d'austérité, tout comme d'ailleurs l'autorité qui contrôle les finances de New York depuis 1975 demande aussi au maire 1 milliard de dollars d'économie.
Pourtant, d'autres villes américaines ont réussi à surmonter leur propre faillite.
Oui, une soixantaine de ces villes ont été placées sous le chapitre 9 des faillites depuis la loi des années 50 qui les y autorise. La plus récente est Detroit en 2013. Motortown, donc englué dans plus de 18 milliards de dollars de dettes à l'époque pour 2 milliards de budget, qui s'en était tiré en un peu plus d'un an avec une solution originale, une restructuration classique, les créanciers renonçant parfois aux trois quarts de leur dû, mais aussi l'accord des retraités municipaux, des syndicats de travailleurs et le concours financier de fondations locales comme Ford. On avait même un temps envisagé de vendre des tableaux de l'Institute of Arts. Finalement, les bijoux de famille sont restés sur place. Mais à New York, en tout cas, le consensus sera difficile. Les démocrates les plus à gauche veulent des taxes spécifiques sur les revenus des 119 résidents milliardaires, alors que, face à l'hémorragie d'habitants en ce moment, le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, affiche au contraire la séduction et leur propose même de leur payer un verre et de leur faire la cuisine. À l'époque, on se rappelle, c'était la baisse de la fiscalité qui avait transformé la ville de loser en winner, disait un spécialiste de la question 5 ans après, en 82.
Ils ont été à deux doigts de se noyer et ils ont réussi à faire ce pas énorme en adaptant la fiscalité commerciale. Nous, on a repris un building qui n'avait qu'un seul employé, maintenant on en a 2000. Et pendant le pic de la construction, c'était 4000. Alors la grande gagnante, c'est bien la ville. Et je vais même vous dire, s'ils n'avaient pas voté la baisse de taxes, je n'aurais jamais construit cet immeuble.
On a reconnu l'inimitable Donald Trump. À l'inverse, certaines villes ont parié sur la financiarisation et la bourse pour se développer.
Et oui, deux notamment ont créé des fonds cotés en bourse et ouverts aux habitants et aux investisseurs extérieurs. Celui de Nashville en 2013, la ville de Johnny Cash en pleine croissance, appuyée sur un groupe d'entreprises locales. Mais le fonds a été clôturé en 2018 pour cause de rendement trop faible, 5% seulement, la moitié du S&P 500 de l'époque qui était sa cible. Et puis dès 2006, l'Arabie Saoudite aussi avait expérimenté avec KAEC, la King Abdullah Economic City, ville acronyme dont 30% sont cotés à la bourse de Riyad. Alors là, il n'y a pas de maire mais un PDG. Et puis à la place des taxes sur l'immobilier, ce sont des frais de service. 2 millions d'habitants étaient prévus pour 2035, mais ils étaient seulement 7 000 il y a deux ans. Et l'action lancée à plus de 25$ est descendue à 10$. Alors ville mirage ou mirage de la bourse, entre les deux, avec ses shareholders city depuis 20 ans, et bien l'un a parié sur l'actionnariat comme levier de développement urbain à grande échelle, des villes vendues comme des sociétés par action aux paysans locaux, mais pour beaucoup aujourd'hui fantômes avant d'être nés. Par exemple, 10 000 âmes seulement dans la première, Lavassa, qui devait atteindre 300 000 habitants cette année, des magasins aux stores baissés, la criminalité de rue et les détritus. Bref, New York 1975, funeste présage d'ailleurs dans cette ville. Le milliardaire indien à son origine avait embauché l'architecte d'une partie de la gare et de l'aéroport de LaGuardia à New York.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast et on vous retrouve demain.
Of a hydra upon you, you're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang the gong, get it on. Get it on, bang the gong, get it on. Well, you're built like a car, you've got a hubcap, diamond star halo. Built like a car, oh yeah. You're an untamed youth, that's the truth. With your cloak full of egos, you're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang the gong, get it on. Get it on, bang the gong, get it on. And your stockings, you're windy and wild, oh yeah.
C'est la fin de cette émission. On se quitte avec Bang Gang de U2. Demain, la 5G est-elle indispensable à la relance économique? On posera la question à Pierre-Jean Bengosi, professeur à Polytechnique en charge de la chaire Innovation et Régulation des Services Numériques. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
Oh yeah. Will you dance with